Alors bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien aujourd'hui nous recevons un auteur dans nos studios. Il s'appelle Geoffrey Lebourg. Je dirais c'est un jeune auteur par rapport à l'âge, mais il écrit depuis très longtemps, donc il va nous expliquer un petit peu son parcours. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Comment on est venu à écrire et à quel âge vous avez commencé? Parce que c'est ça quand même qui est important aussi.
J'ai commencé à écrire quand j'avais 11 ans. J'ai toujours eu une imagination assez foisonnante. Et c'est vrai que toutes ces petites histoires que j'inventais dans ma tête et que j'oubliais, après c'est normal, j'ai voulu un jour en garder trace. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, plus je rédigeais, plus je donnais aussi corps à mes histoires, plus elles se structuraient. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à faire un premier roman, puis un deuxième, puis un troisième. Et je ne me suis plus jamais arrêté depuis.
Alors, vous en êtes à combien de romans ?
Paru 16.
16 romans ? Combien par an ? Un par an
Ça dépend des fois, vraiment.
Ça dépend des fois.
Tous les romans, déjà, je ne les écris pas au même rythme. Il y en a certains qui vont plus vite que d'autres à écrire. Et pendant un temps, j'ai tourné à deux par an avec ma dernière série, parce que c'était des romans qui étaient plus faciles pour moi à produire. Il y en a d'autres où, comme cette année, typiquement, cette année, je n'en aurai pas de nouveau. En 2026.
D'accord. Le premier roman, il parlait de quoi ?
Nous étions plus sur une sorte de recueil de nouvelles, pour dire vrai, qui parlait des gardiens. Donc moi, c'est de la fantaisie que je fais. Et nous avions là des esprits magiciens qui avaient un rôle un peu de policier, de surnaturel, maintien de l'ordre. Donc on était vraiment sur de la jeunesse, plein de petites aventures assez rythmées, assez haute en couleur, très, voilà, beau, très imaginatif, beaucoup d'humour aussi, beaucoup d'action.
Et alors maintenant, j'imagine que depuis l'âge de 11 ans que vous écrivez, vous avez évolué.
Oui, mon style a beaucoup évolué. Alors, je suis toujours dans l'imaginaire, mais je teste différents courants de fantasy à chaque fois que je me lance sur un nouveau projet. J'ai notamment, qui ont bien marché, une trilogie de fantasy mythique, où je vais vraiment exploiter ma passion pour les mythologies du monde, les créatures fabuleuses, les divinités, et une saga un peu plus longue de ce qu'on appelle fantasy épique. Médiéval fantastique, en fait, monde médiéval fictif avec un groupe de héros, une quête et un vilain démon à combattre.
Comment ça vous vient là, toutes ces idées là pour les livres?
Alors ça, j'avoue que je ne sais pas franchement. Je me prends beaucoup dans ce que je lis puisque je suis très grand lecteur aussi et subsidiairement sur d'autres sources, films, séries, ce genre de choses. Jeux aussi, je pratique pas mal le jeu de rôle par exemple. Tout seul, ça m'inspire. Et puis après, il y a une part aussi, bien sûr, qui vient personnellement de mes propres réflexions sur le monde, mes convictions. J'ai une plume qui est assez engagée toujours. Donc, c'est aussi important, je pense, de mettre de soi comme cela.
Donc, depuis l'âge de 11 ans, c'est quand même pas courant.
Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vraiment une passion. Ça me prend beaucoup de mon temps libre, mais j'adore ce que je fais et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Je veux vraiment partager un maximum mes histoires avec les gens. Parce que aussi, c'est ce que moi je cherche quand je lis, c'est vraiment d'avoir cette petite parenthèse d'évasion, de pouvoir espérer en un monde un peu meilleur, loin de tous les tracas du quotidien. Et donc je veux transmettre à mes lecteurs cette évasion, cet émerveillement, et aussi certains messages sociaux pour sensibiliser un peu le public à des grandes thématiques contemporaines. Donc voilà, c'est vraiment... Alors c'est un plaisir bien sûr, mais il y a quelque part aussi presque du devoir, une mission que je me suis auto-assignée.
Vous avez commencé très jeune. Est-ce que vous arrivez à concilier écrire et puis le collège, le lycée? Vous avez pu arriver à faire tout, mener tout d'un?
Oui, alors quand j'étais au collège et au lycée, c'est vrai que je n'écrivais pas encore beaucoup non plus. C'était vraiment les débuts. Après, j'ai vraiment commencé à plus écrire quand je suis parti à la fac, où là, effectivement, bon, ce n'était pas trop prenant, mine de rien. J'ai pu concilier plutôt bien les deux. Depuis que je suis sur le monde du travail, j'ai moins de temps, effectivement. Donc oui, là, c'est un équilibre un peu plus délicat.
Donc vous arrivez quand même à faire les deux?
Oui, bien sûr, on essaye.
C'est votre temps, c'est votre passion,
oui.
Déjà. Donc, j'imagine que votre temps libre, vous le passez à écrire.
Beaucoup, oui, beaucoup. Ça dépend des périodes. J'écris par période. Je ne suis pas tout le temps en phase d'écriture. Mais quand j'y suis, oui, pendant plusieurs semaines, je ne sais vraiment beaucoup ça, en tout cas. Pas que, mais beaucoup.
Alors, comment vous faites pour écrire? Comment vous procédez? Alors, est-ce que vous prenez des notes?
Oui, c'est tout ce que je fais, c'est très, très structuré. J'ai toujours souvent un projet d'avance, en fait. Je structure le suivant pendant que je suis en train d'écrire une série. Et après, ça dépend aussi des séries qui n'ont pas toutes la même manière d'être abordées. Typiquement, voilà, les 7 reliques, comme je vous le disais, j'ai pu les produire assez vite parce que c'était quelque chose qui était vraiment très très structuré dès le début. Je n'avais plus qu'à remplir un peu les blancs, mais j'avais déjà la moitié du travail qui était déjà abattu avant même de commencer la série. Il y a eu d'autres projets, comme les Chroniques du Nouveau Monde, où je me suis laissé beaucoup plus aller spontanément. J'avais moins de choses de prévues. Et donc là, les livres étaient un peu plus longs aussi à écrire parce que je tâtonnais plus, mais... Chaque projet a ses propres exigences, je n'ai pas vraiment de méthode fixe.
Alors, est-ce que vous avez rencontré d'autres auteurs, j'imagine, que vous faites des salons?
Bien sûr, on fait beaucoup de salons du livre, je rencontre des auteurs, quelques éditeurs. Donc ça permet aussi d'échanger sur le secteur, sur les pratiques professionnelles, c'est très enrichissant.
Alors, est-ce que quand vous avez écrit, pour finaliser avant que ça parte en édition, c'est vous qui relisez, c'est quelqu'un d'autre qui le relit? Comment vous faites?
Oui, je le travaille beaucoup, plusieurs fois je le relis, je le reprends, je le corrige, j'utilise aussi des logiciels de correction professionnelle, typiquement Antidote, qui est un excellent logiciel. Et après, je le fais passer en bêta lecture, donc des gens qui lisent déjà le texte en me disant « Bon, ce passage-là, c'est pas très clair, ce qu'un logiciel ne verrait pas, par exemple. » Ou ça peut être positif aussi. « Ah, j'aime beaucoup comment ce personnage a évolué. » Voilà, les premiers avis humains sont aussi très importants. Et quand j'ai appliqué ces propositions d'amélioration, là, oui, j'estime que le roman est terminé, je peux le soumettre à un éditeur, effectivement.
Là, je vois que vous avez amené 2 livres.
Oui.
Ils sont quand même assez épais. Il y a combien de pages?
Oh non, c'est assez... Sur la fantaisie, on est sur 300 pages en format donc, imprimé, ce qui correspond à peu près à 160-180 pages de manuscrits. C'est vraiment la moyenne pour la fantaisie. Il y en a pas mal qui dépassent ce nombre-là.
Et vous illustrez vos romans? Vous mettez des photos? Non.
Malheureusement, je n'ai pas tous les talents. Moi, j'arrive déjà à écrire. Mais tout
c'est
ce
déjà...
Oui, ce qui est déjà très bien. Mais c'est vrai que la partie illustration, je ne suis vraiment pas très à l'aise dessus. Donc, non, on trouve bien quelques images parfois. À force, je touche un peu en photomontage, mais c'est pas ma spécialité, il faut être honnête. Mais après, j'ai un très bon graphiste dans la maison d'édition qui peut aussi m'aider un petit peu là-dessus.
Donc, et déjà, il faut bien quand même créer une couverture.
Voilà, typiquement, ça, ce n'est pas moi qui m'en charge, c'est la maison d'édition.
D'accord. Mais est-ce que vous leur donnez des idées?
Bien sûr, oui. Je dis ce que je visualise, comment je l'imagine, quel style, quelle nuance de couleur. D'un livre à l'autre, j'ai plus ou moins d'idées aussi. Et donc après, on s'arrange pour que ça colle au maximum avec mon idée initiale.
Alors, le dernier livre que vous avez écrit, c'est lequel?
C'était le dernier tome de la saga Les 7 reliques, qui est sorti en mois d'octobre 2005.
Alors, une saga, donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs...
Là, oui, Les 7 reliques, on était vraiment sur un très gros projet, puisque c'était une série de 7 tomes. Voilà, je ne referais pas de sitôt quelque chose d'aussi long, mais je voulais vraiment aussi me fixer un peu le défi de faire quelque chose d'un peu plus long, tout en... Voilà, une histoire avec des personnages qui vont suivre quand même le lecteur pendant longtemps, hein. Mis bout à bout, on est sur 2200 pages de livres. Donc d'arriver vraiment à tenir le rythme de l'histoire, à faire évoluer les personnages sur le long terme. Et voilà, c'était un grand projet qui m'a pris plus de 5 ans d'écriture, mais du coup j'en suis très content maintenant.
Et sûrement très fier.
Oui, quand même. On peut le dire.
C'est quand même pas évident d'écrire comme ça et puis d'avoir des idées,
oui,
d'avoir de...
J'avoue que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination déjà, une bonne mémoire qui m'aide aussi à rester cohérent dans ce que j'écris. Et puis la passion, c'est ce qui fait la différence, je pense. C'est vraiment... Je suis passionné par tous les univers imaginaires. J'aime ce que je fais, donc je vois pas les heures passer, je peux travailler beaucoup dessus, me concentrer beaucoup. Ça aide. Quand on aime ce qu'on fait, de toute façon, c'est toujours beaucoup plus facile.
C'est vrai. Quand vous rencontrez d'autres auteurs, parce
oui.
que vous êtes quand même jeune,
oui.
ils vous disent quoi, les autres?
Effectivement. Alors, plus le temps passe, et plus ça peut m'arriver de rencontrer des auteurs plus jeunes que moi. Parce que, mine de rien, je ne suis plus systématiquement le plus jeune auteur d'un salon, forcément. Comme tout le monde, je vieillis. Mais oui, effectivement, beaucoup de gens s'étonnent de ma jeunesse. On rencontre, surtout dans nos régions, beaucoup de gens qui se mettent à écrire sur le tard, quand
tout
ils sont en fin de carrière,
ouais.
voire à la retraite. Après, c'est pas forcément non plus sur des genres comme le mien, naturellement. Mais ça surprend toujours un petit peu. Et après, en fantasy, on est pas plutôt sur des trentenaires ou des quadras, jeunes quadras plutôt. C'est toute une génération qui a grandi avec ça, hein, tous les gens qui ont connu à leur sortie les films de Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter sont des gens qui encore à l'âge actuel vont être très sensibles à toute la fantasy. Donc on est plutôt sur cette tranche là pour les auteurs. Moi je suis un peu plus jeune que la moyenne, mais pas tant que ça, mine de rien, pas tant que ça.
Vous, c'est la fantasy, oui. Mais est-ce que vous envisageriez de changer de... Alors, ou est-ce que vous voulez continuer sur ces thèmes-là ?
Oui, déjà, bon, dans la fantasy, il y a quand même plusieurs sous-genres, il y a une grande diversité, et je m'attache à chaque projet à changer de style. Fantasy mythique, fantasy épique...
Alors, moi, je suis une novice, et nos éditeurs certainement aussi. Quelle est la différence entre les deux ?
Comme je vous le disais tout à l'heure, la fantasy mythique, on est sur la mythologie. On la réadapte, mais ça, c'est une base mythologique. La fantasy épique, c'est beaucoup plus sur le ton aventure, donc façon Tolkien, qu'on citait tout à l'heure aussi, façon les grandes odyssées qui embarquent leurs lecteurs. Mon prochain projet, c'est sur de la cozy fantasy. Donc là, on est beaucoup plus sur une dimension humaine, sur des petites... sur des villes, souvent, ça dépasse pas le cadre de la ville. On met l'accent sur les relations interpersonnelles, beaucoup plus que sur les trucidés du monstre. C'est une approche complètement différente, mais ça reste de l'imaginaire, de la fantasy, avec donc des elfes, des sorciers. Mais voilà, c'est un genre qui vient d'émerger, justement, parce que les gens en avaient marre de toujours voir de la violence et de l'aventure, et qui voulait juste quelque chose de beaucoup plus réconfortant, beaucoup plus doux. Donc j'ai trouvé que ça m'a beaucoup plu aussi quand j'ai découvert ce genre-là. C'était aussi un challenge de me mettre à écrire de la cozy fantasy. Après, pour revenir à votre question première, je veux contrester dans l'imaginaire quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment ce qui fait mon ADN. Mais je commence à réfléchir peut-être à des projets de science-fiction, qui là sont quelque chose de radicalement différent. Remplacer la magie par de la technologie, en fait.
Quand on vous entend parler, moi je reste béate, parce que franchement, c'est quand même notre monde.
Oui, ben plusieurs. C'est le but aussi, c'est de s'évader de la réalité. Surtout quand tout ce qu'on voit en ce moment, on va pas se mentir, c'est pas très encourageant.
Hein. C'est vrai.
Légèrement déprimant. Donc, c'est pour ça que je pense que la lecture, la fiction, de manière générale, notamment la fantasy...
ça permet de s'évader vraiment, un petit peu.
C'est vraiment des... Ça devrait être remboursé par la sécu pour les plus que le psy. Ça, je pense que ça peut aider les gens à souffler un peu, ouais, à aller mieux, vraiment. En tout cas, moi, c'est mon antidépresseur naturel.
En ce moment, donc, vous faites... quoi ? Vous avez réfléchi sur... Vous écrivez un petit peu...
Oui, ben avec l'été, c'est vrai que j'ai aussi plus de latitude. Donc, on travaille vraiment sur ce projet de cozy fantasy. Et puis, je développe toujours des petits projets aussi annexes. Là, j'ai commencé à m'intéresser, peut-être faire un jeu de rôle à partir de mes univers aussi. Ce qui permettrait à des gens, en fait, d'entrer dans mes récits par d'autres portes. J'ai eu des projets parallèles qui sont jeux de rôle, bestiaires, jeux de société... qui permettrait d'aller plus loin que juste l'univers écrit dans les livres, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses aussi à en dire. Trop de choses parfois pour que je puisse les mettre dans les livres, qui sont déjà, bon, sur une 300-400 pages, c'est déjà quand même pas mal par tome. Donc soit je fais beaucoup beaucoup de tomes pour avoir le temps de tout mettre, soit je trouve d'autres manières pour les gens de s'approprier cet univers-là. Et c'est pour ça que je pense que le jeu notamment peut être un très bon outil, un très, très, très beau moyen d'accès.
Vous avez toujours un esprit en ébullition. Hein.
Oh, j'arrête pas. C'est vraiment une pensée qui est arborescente déjà, qui ne s'arrête jamais, qui part toujours sur de nouvelles choses. J'ai toujours cet esprit très, très, ben, très inventif, mais très curieux aussi, même de tester, de dire, tiens, est-ce que ça pourrait marcher ? Est-ce que je ne connais pas encore ce milieu-là ? Je vais m'intéresser un peu, voir s'il y a des choses à faire aussi. À la fois pour moi, et puis aussi dans ce projet professionnel, on va dire, qui est à terme, selon je ne suis pas encore là, bien sûr, d'arriver à vivre de mes droits d'auteur, ce qui est très rare en France, mais c'est l'objectif, bien sûr. J'espère.
Il faut toujours aller de l'avant, oui. Et puis se donner un objectif et essayer de l'atteindre.
Pour le coup, bon, c'est sûr que auteur, c'est pas une très bonne voie quand on veut de l'argent. Je fais pas ça pour ça, ça tombe bien. Mais après, oui, c'est quand même une reconnaissance quelque part de pouvoir, parce qu'on a eu suffisamment de gens qui nous ont fait confiance, de pouvoir juste se permettre d'écrire et de ne pas avoir à gérer toutes les contraintes qui sont à côté, qui nous empêchent d'écrire correctement.
Vous avez été, j'imagine, aidé par la famille. Vous avez été entouré.
Oui, j'ai eu un très grand soutien de la part de mon père pour les premiers romans qui m'a vraiment poussé. Je ne serais pas forcément allé dans le milieu éditorial, j'écrivais pour moi. Celui qui m'a dit, mais c'est quand même bien ce que tu as, essaye. Il m'aide dans les démarches de prise de contact avec les éditeurs, tout ça.
Voilà, c'est quand même un monde à part, le monde de l'édition.
Oui, c'est un monde très particulier qui traverse en ce moment en plus un certain nombre de crises aussi. Donc, il faut réussir à s'y retrouver, c'est pas toujours évident.
Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire d'autre à propos de votre parcours, à propos de vos livres?
C'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'effectivement, bon, j'essaye de faire des histoires qui vont parler à un grand bon nombre de gens, que j'écris vraiment de manière sincère, avec tout ce que j'ai en moi, l'engagement, les thématiques abordées, que ce soit donc la mythologie, les créatures fabuleuses, les mondes médiévaux. Et après, donc effectivement, que dans cette optique d'inclusion, j'essaie de sortir un maximum du livre. On a parlé des jeux de société comme piste potentielle pour entrer dans l'univers. On a aussi développé avec mon éditeur ce qu'on appelle la lecture augmentée, qui est le fait que dans les livres, vous allez retrouver des petits codes QR à flasher qui vont vous emmener sur notre site à différents endroits. Vous avez des cartes interactives, vous avez des pistes audio, vous avez des petits jeux, des petits quiz. Vous avez plein de choses qui permettent aussi de sortir du livre uniquement papier pour rentrer dans l'univers étendu et approfondi. Donc voilà, c'était aussi des... Le numérique n'est pas toujours un ennemi, hein, même s'il faut s'en méfier parfois, notamment avec toutes les IA dont on entend parler en ce moment, mais le numérique, quand on le sait bien l'apprivoiser, peut être aussi un excellent support, donc pour se permettre d'aller aussi un peu plus loin. Et vous aviez la question des illustrations. Typiquement, le fait aussi de mettre une illustration dans un livre, non seulement ça augmente les frais d'impression et de vente du livre, parce qu'il y a l'impression couleur, et l'image ne va pas de bonne qualité, parce qu'elle va être toute compressée, alors qu'en mettant des images par internet, elles ne perdent pas de qualité et le livre aussi reste à des prix plus abordables. Donc c'était... Voilà, il y a tout concorde avec cette lecture augmentée à servir un produit de meilleure qualité aussi au lecteur. Et c'est quelque chose que nous sommes très 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 peu nombreux à faire en France. Genre, de mémoire, je connais deux autres auteurs qui font aussi de la lecture augmentée. Donc je trouve que ça amène ma petite originalité. J'en suis pas mécontent du tout.
Quand vous rencontrez des auteurs plus jeunes, qu'est-ce que vous vous racontez?
On échange principalement de ce qu'on aime faire, pas tellement de nos parcours personnels. On est tous très différents dans tout ce qu'on a raconté, c'est normal. Donc de savoir quelles sont nos inspirations dans nos sensibilités respectives... On reste plutôt là-dessus. En tout cas, moi, j'avoue que je n'aime pas forcément parler du parcours, de dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais à côté ?» ou « Comment t'en es venu là ?» Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que les gens ont à raconter aussi.
Est-ce que ce qu'ils mettent dans leur livre...
Oui, je pense que c'est... Pour un auteur, en tout cas, c'est aussi comme ça qu'on peut juger la personne. Il y a toujours une part de nous, en fait, fatalement. C'est toujours intime. Ça se voit quand un auteur triche dans un livre qu'il n'est pas sincère. Donc,
ça se voit.
Je pense que moi, en tant que lecteur, ça se voit. Quand quelqu'un soutient un engagement qui n'est pas le sien, par exemple, ça se voit, ça sonne faux, en fait. Donc, quand je lis, je suis capable de dire si la personne pense vraiment ce qu'elle dit ou pas. Et donc, parfois, on laisse s'échapper des choses qui ne sont pas forcément aussi volontaires. Hein. Moi, je sais que j'ai mon histoire personnelle qui ressurgit parfois dans certains personnages de manière complètement imprévisible. Et quand je me relis, je dis « Ah oui, tiens !» Donc, je pense qu'on peut vraiment connaître un auteur aussi par sa plume. Oui, aussi quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Ça reste toujours voilà, dans ces histoires de diversifier les supports. Je produis un certain nombre de podcasts, parfois diffusés sur des radios aussi, telles que la vôtre, sur des thématiques. Alors j'en ai fait une série sur les divinités, je suis en train de faire une série sur les créatures fabuleuses. Ça reste toujours, bien sûr, dans mes thématiques de prédilection, là où j'ai des connaissances aussi qu'on ne trouvera pas sur Internet, que je peux partager avec un large public. Donc voilà, j'ai essayé depuis peu l'outil audio aussi pour permettre d'aller plus loin sur mes réseaux sociaux. Ça m'arrive de lire des extraits aussi de mes romans pour vraiment se détacher du texte pur et vraiment juste se laisser guider par la voix.
Est-ce que vous allez dans les librairies? Est-ce qu'on vous le demande de faire des lectures de vos romans?
Ah, des lectures publiques? Non, ça ne m'est pas encore arrivé, c'est vrai. Je vais dans les librairies pour des dédicaces. Et pourquoi pas, après tout. J'ai fait plusieurs fois dans des médiathèques et des centres de loisirs. Des centres de loisirs pour leur faire lire des petits extraits, pour leur expliquer de quoi ça parlait. On a animé des sortes de petites conférences aussi sur les différents genres au sein de l'imaginaire, sur les créatures fabuleuses un petit peu emblématiques, comment on est arrivé aussi là, parce que c'est intéressant de voir comment elles ont pu évoluer à travers l'histoire. Des représentations médiévales, parfois même antiques, jusqu'aux représentations modernes. Donc voilà, j'ai fait des petits ateliers comme ça avec des enfants. J'essaie aussi de lancer un atelier d'écriture, écriture de contes pour les enfants, pour inciter peut-être des vocations, on ne sait jamais, mais...
Alors, ils réagissent comment, les enfants?
Ah, ils sont toujours très, très investis. Ça les épate souvent, ils ont plein de questions. Non, vraiment, il y a un très, très bon retour de ce côté-là.
Un très bon rapport avec les enfants.
J'ai toujours eu plutôt un bon rapport de toute façon avec les enfants, je trouve. Mais c'est vraiment un plaisir de faire ces ateliers.
Est-ce que vous voulez nous rajouter autre chose ?
Je pense
que... Il faut en profiter.
Oui, bien sûr. Mais je suis en train de réfléchir. On a quand même parlé de beaucoup, beaucoup de choses.
Et finalement, vous avez beaucoup de casquettes, parce que vous avez un petit peu dans...
Alors, pour être auteur, aujourd'hui, de toute façon, il faut déjà avoir un certain nombre de casquettes. Il faut être écrivain, il faut être correcteur, lecteur, il faut être communicant sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas encore ma tasse de thé, mais j'essaie de m'y mettre. Ça, c'est le minimum. Effectivement, toute la partie après aussi, communication avec les partenaires, éditeurs, ce genre de choses.
Et ça fait beaucoup de chance, finalement.
De base, ça fait déjà des choses. Et oui, moi, c'est vrai que j'essaie de me diversifier en plus sur la radio, sur l'animation. Ça fait beaucoup de casquettes pour la même personne, mais bon.
Après, mais vous y arrivez.
Ah oui, et puis je vous dis, enfin, j'aime ce que je fais aussi, donc je compte pas mon temps ni mon énergie quand je fais ça. Ça reste du plaisir, à part les réseaux sociaux. Mais tout le reste, quand c'est vraiment du rapport humain, de faire des salons, de faire des animations, ça, j'adore.
Mais ça prend du temps.
Ah bah oui, il faut le temps que ça, y consacrer le temps que ça mérite, on va dire.
Eh bien, si on a fait le tour de tout ce que vous aviez à nous dire, on va vous souhaiter bon courage. Et puis, on va vous souhaiter beaucoup de la réussite dans la suite, surtout.
Écoutez, je vous remercie. C'est toujours un plaisir aussi de venir échanger de mon travail. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir invité. J'invite nos auditeurs, s'ils veulent s'intéresser un peu plus à ce que...
On peut peut-être... Il y a un site internet.
Voilà, parce que mes deux séries phares, donc ce sont les 7 reliques et les chroniques du Nouveau Monde, sur les sites associés les-7-reliques.fr et chroniquesdunouveaumonde.fr, ou auprès de notre éditeur, des auteurs des livres, et après sur les réseaux sociaux, effectivement, la page Facebook Les 7 Reliques, et ma page Instagram qui est geoffreylebourg.auteur.
Est-ce que vos livres, on les trouve dans certaines librairies ?
Oui, ils sont référencés, n'importe quel libraire peut les commander, même s'il ne l'aura peut-être pas en rayon, mais normalement, voilà, sur la base, les bases de référencement des sites, etc., ils peuvent les commander tout à fait.
Il y a quelque chose quand même qu'il faut préciser, c'est important.
Ces deux séries-là sont très faciles à trouver pour le public.
Alors, à combien d'exemplaires vous avez vendu vos séries ?
Présentement, sur les deux séries, on est à 16 000 exemplaires.
Ah, c'est déjà pas mal, quand même.
Oui, c'est déjà très bien.
Qu'est-ce que ça fait quand on voit ce nombre d'exemplaires ? Est-ce que vous y attendiez à ce succès, finalement ?
C'est difficile. Forcément, quand je lance un livre, j'espère qu'il y aura du succès. Mais après, ça fait quelque chose de différent de dire « Ok, j'ai réussi pendant 6 mois à vendre 5 000 exemplaires. » Dire « Ah oui, c'est prometteur et j'aime quand ça continue, on va dire. »
Un dernier petit mot au niveau des salons.
Oui, on voulait aussi en profiter pour parler donc de notre prochain salon, qui sera la première édition des Dragons de l'Imaginaire à Bergerac. Ça aura lieu le week-end du 17 et du 18 octobre donc 2026. Ça a l'air très très prometteur. En tout cas, les organisateurs se décarcassent. Donc j'espère que ça sera un succès. Et nous espérons vous y rencontrer nombreux.
Merci Geoffrey. D'être venu dans nos studios. Et puis, une belle réussite dans tous vos projets, dans tout ce que vous entreprenez.
Oui, je vous remercie, j'espère.
À très bientôt.
À très bientôt, merci, au revoir.
Au revoir.